Lundi, soir de foot, sur RTL L'Équipe, Salim Bongali.
20h03 sur RTL L'Équipe, en direct de Tours. Bonsoir à toutes et à tous sur votre radio du sport et de l'information pour lundi soir de foot, votre rendez-vous hebdomadaire du lundi consacré à tous les footballs, la Ligue 2, le National, le CFA, le foot féminin et le foot à l'étranger. Voici le programme très chargé de ce lundi 11 avril 2011. En direct du stade de la Vallée du Cher, la conclusion de la 30e journée de Ligue 2 et le match ce soir entre Tours et Ajaccio. Des Tourangeaux qui visent évidemment le podium, en tout cas qui visent la proximité, je dirais, de ce podium. Et de l'autre côté, Ajaccio qui vise pourquoi pas une deuxième place au classement. Enjeu et composition des équipes dans un instant, direct de Tours. Avant le coup d'envoi de cette rencontre à 20h30, votre page notamment consacrée au National et à Bayonne. Michel Dufour, le président bayonnais, est parti évincé du club après 18 ans passés dans ce club bayonnais. L'entraîneur Alain Pochat sera avec nous. Juste après, on évoquera le CFA avec Quevilly, le club qui nous a tant fait rêver en Coupe de France. Mais son entraîneur Régis Brouard sera lui aussi avec nous pour évoquer une période beaucoup plus difficile. Son club qui va pas bien en championnat, une seule victoire sur les 9 dernières rencontres. Régis Brouard, sur le coach, sera donc avec nous. À la mi-temps de la rencontre de Ligue 2, soit aux alentours des 21h15, votre page consacrée au foot au féminin avec un club qui va bien. C'est le club de l'Olympique Lyonnais, demi-finaliste de la Ligue des Champions. Et après une victoire à l'aller 2-0, on peut espérer pourquoi pas un bon résultat au match retour. Patrice Lair, le coach, sera avec nous. Enfin, à partir de 21h, autre grand rendez-vous dans ce lundi soir de foot. La conclusion de la 32e journée de Premier League et le match anglais entre Liverpool et Manchester City. Des Citizens qui ont un objectif, reprendre la 3e place au classement. Face à eux, des Reds qui ont encore un mince, très mince espoir d'accession à la Ligue des Champions via la 4e place. 20h-23h, lundi soir de foot. Vous êtes bien sur RTL L'Équipe. C'est parti.
RTL L'Équipe, lundi soir de foot, le National.
Et effectivement, on va évoquer le National et notamment, comme je vous le disais dans le sommaire, évoquer le club de Bayonne. Michel Dufour, son président, a été évincé après avoir passé 18 ans au club. Son entraîneur, Alain Pochat, nous a accordé un entretien juste avant ce lundi soir de foot pour évoquer cet événement, mais également évoquer plus simplement le sportif. Bayonne ne va pas très bien au classement et on est revenu notamment sur la dernière défaite du club bayonnais. Entretien avec l'entraîneur Alain Pochat. Et tout d'abord, Alain, forcément, le retour sur ce week-end, la défaite cruelle, je dirais presque, à Créteil, 1-0, parce que sur ce match-là, vous ne méritez sans doute pas la défaite.
Non, c'est vrai que si voilà, on fait le bilan de ces 90 minutes, je crois qu'on s'est créé beaucoup d'occasions à l'extérieur face à un adversaire quand même de qualité. Et malheureusement, il faut être efficace quand on a l'opportunité de passer en tête devant l'adversaire, et malheureusement on n'a pas su le faire. C'est regrettable parce que je pense que le groupe méritait là samedi de prendre 3 points.
Oui, malheureusement effectivement vous avez eu cette défaite en fin de rencontre. Est-ce que vos joueurs étaient abattus, je dirais, après le match?
Oui, beaucoup de frustration, pas abattus mais de la frustration parce qu'ils sentaient bien que voilà, ils avaient pris le match par le bon bout. On a eu 20 minutes un petit peu puisque on avait subi une sacrée claque contre Alfortville le week-end avant, donc forcément les joueurs étaient un peu sur la défensive et bon, ils ont eu 20 minutes où c'était un peu compliqué pour rentrer dans le match, mais après je pense que tout le reste de la partie on a pris le match à bras le corps et on s'est vraiment créé des situations énormes, des face-à-face avec le gardien, une tête sur le poteau, un pénalty qui a été, me semble-t-il, oublié par monsieur l'arbitre. Et puis, sur une demi-occasion, en deuxième mi-temps, pratiquement la seule de Créteil, ben, on prend un but, donc c'est vraiment frustrant.
Vous l'avez dit, Alain, la semaine auparavant et la dernière journée qui précédait donc cette défaite à Créteil, vous avez subi une lourde défaite face à Alfortville, en encaissant notamment 4 buts. Qu'est-ce qui s'est passé dans les têtes, dans les jambes, peut-être? Est-ce que vous avez eu une explication après?
Oh, ben on a fait le point justement avec les joueurs, on a revu le match, on a essayé de décortiquer un peu ce qui s'était passé. Alors, est-ce qu'inconsciemment, quand on joue des adversaires qui sont a priori des adversaires que l'on peut et que l'on doit battre entre guillemets, parce que ils sont derrière nous au classement, mais malgré tout, on sait très bien que c'est les matchs les plus difficiles. Donc, inconsciemment, il y a peut-être moins de concentration, tant et si bien qu'on a pris un but au bout de 2 minutes et que ça a fait forcément le jeu d'Alfortville, qui était déjà venu pour défendre un bloc bas et d'essayer de contrer, on savait que c'était leur jeu et ils se sont accrochés à ça et puis ils sont venus, nous on a essayé de pousser, on a eu des situations pour revenir au score, on l'a pas fait une fois de plus, on a eu un poteau à 1-0 qui aurait pu nous remettre dans la partie. Et bon, pour en avoir discuté un peu avec le coach à la fin du match, ils ont eu 100% de réussite voilà, par rapport au fait qu'ils sont venus 3-4 fois et qu'ils ont marqué 3 fois et que c'était une réussite qui les fuyait depuis pas mal de temps. Et nous, on sait ce que c'est puisqu'on a été aussi dans cette zone rouge et qui fait que souvent, l'équipe qui est dans ce classement-là, ben, forcément, ça sourit pas toujours en faveur de ces équipes-là. Donc, on a analysé tout ça. Et puis là, maintenant, il faut garder un équilibre. C'est toujours pareil quoi, entre le fait de devoir attaquer pour revenir au score et être équilibré défensivement. Et là, sur ce match-là, on a vu qu'on a pris des contre-assassins qui nous ont fait très mal.
Justement, vous étiez dans la zone rouge une bonne partie début d'année. Vous avez fait un début de saison 2011 tout à fait satisfaisant, hein, avec notamment un mois de février exceptionnel, avec un nul et 3 victoires, plus une victoire qui suit derrière en mars. Les joueurs ne sont-ils pas dit après cette série de 4 victoires consécutives que le maintien c'était quasiment fait, pour après une défaite à Passy et l'UJA, deux concurrents pour le maintien?
Oui, je pense qu'ils savaient que le mois de février allait être important, donc ils avaient remporté pas mal de points pendant cette période-là. Alors forcément, est-ce que le fait de se dire après on a deux équipes qui sont mal classés, qu'on va rencontrer, ça va finir le travail pour se maintenir. Mais en fait, je pense que inconsciemment, oui, c'est vrai que peut-être le danger, c'est que quand on fait des séries comme ça, on relâche un peu inconsciemment la concentration, la rigueur et en fonction des adversaires. Parce que quand vous êtes capable de battre Fréjus à domicile, qui jouait encore à l'époque quelque chose pour pouvoir espérer éventuellement titiller le haut du tableau en Ligue 2. Bon, en plus c'était un gros match. On ne doit pas redesserrer les taux contre Passy ou contre Alfortville. Donc on a été punis et bon voilà, c'est le football, c'est comme ça.
Mais vous-même, votre concentration, Alain, est-ce qu'elle a été modifiée durant cette période un peu faste de Bayonne? Enfin, vous-même, vous n'êtes pas dit ça va, on va pouvoir gérer tranquillement? Non,
avec le staff, honnêtement, justement, on veille à ça parce qu'on sait trop. Ça fait pas mal d'années maintenant que ce soit en CFA quand on a repris l'équipe, ou même moi j'ai été adjoint à l'époque en National. On sait que c'est un championnat très long, encore plus cette année puisqu'on a encore plus de matchs à jouer et que souvent tout se joue jusqu'aux dernières journées. Et nous on mettait en garde les joueurs, donc forcément on a essayé d'être les garants de ça, de garder cette concentration, mais du sérieux à l'entraînement, du travail. Bon, on a un groupe quand même qui est composé en majorité de joueurs du cru, qui connaissent les valeurs du club, que nous on sait très bien qu'on va jouer le maintien à chaque saison. Donc maintenant après il y a des adversaires aussi qui ont des choses à faire valoir, et cette équipe d'Alfortville, malgré tout, elle a été faire 0-0 à Bastia, elle a pas perdu à chaque fois de beaucoup, même contre des gros, même Rouen, ils ont eu un expulsé qui a fait que ça a fait basculer le match. Donc forcément aussi il y a des adversaires qui lâchent rien jusqu'au bout, et c'est un championnat très difficile, chaque week-end il faut se remettre en question. Et bon, je pense que quand même malgré tout la qualité de l'effectif, sur la durée, la quantité, les individualités peuvent faire la différence. Nous, on sait qu'on a des jeunes joueurs, un groupe jeune, avec des joueurs qui arrivent souvent du dessous. Donc, c'est ce que je leur explique tout le temps. Pour prouver qu'on a le niveau national, il faut le prouver sur 40 journées, non pas sur 5-6 journées.
Alain Pochat, l'entraîneur de Bayonne, qui était avec nous ce soir dans Lundi Soir de Foot. Alain, vous êtes avec nous donc pour évoquer évidemment le sportif, mais également l'extra-sportif, puisque on l'a appris notamment par l'intermédiaire de nos confrères de Sud-Ouest. Le président Michel Dufour a été, semble-t-il, évincé. D'ailleurs, vous allez pouvoir nous le confirmer. C'est bien le cas, Michel Dufour, le président, n'est plus le président de Bayonne ?
Non, ben, disons que c'est suite à une assemblée générale extraordinaire qui a eu lieu jeudi dernier. Voilà, il y a eu un vote de la part des forces vives du club qui ont fait que ben, Michel Dufour, malheureusement, n'a pas été reconduit dans ses fonctions. Donc, c'était fait par un vote à bulletin secret. Et donc, voilà, les urnes en ont décidé ainsi. Et bon, voilà, c'est un peu, je pense, dommage que ça se passe en ce moment. Je pense que la date de cette Assemblée Générale aurait peut-être été plus favorable, je pense, en fin de saison, quand on aurait pu tirer un bilan sportif, financier, voilà, et faire les choses pour préparer la saison suivante.
Oui, c'est bien ça qui paraît plus gênant en voyant ça de l'extérieur, sans vous faire commenter, évidemment, l'issue de cette élection, c'est le fait d'avoir décidé ça à quelques journées de la fin, au moment où Bayonne a, je dirais, besoin de toutes ses forces vives.
Oui, c'est vrai que, dans l'absolu, c'est vrai que c'est en général soit en début de saison qu'on fait une assemblée générale ou vraiment au mois de mai-juin. Là, ben, il y a une décision du comité directeur de faire cette assemblée générale extraordinaire parce qu'il y avait aussi une modification des statuts. Il y avait des dirigeants qui avaient démissionné il y a un an en arrière et qu'il fallait remplacer. Et bon, voilà, ils avaient décidé de faire ça à cette date-là. Alors peut-être qu'ils ne pensaient pas qu'il allait avoir ces conséquences-là derrière. Maintenant, voilà, ben, on est obligé de faire avec et de continuer à tout faire pour que le club fonctionne et notamment le sportif fasse en sorte que ben, l'équipe première de l'Aviron Bayonnais reste en national.
Mais Alain, quel va être l'organigramme au final de Bayonne dans ces prochaines semaines, ces prochains mois ?
Oh, ben là, il y a quand même eu un vote, donc ça veut dire qu'il y a des gens qui ont été élus au comité directeur. Ce comité directeur a élu un président, un bureau, un trésorier, un secrétaire. Donc il y a des gens qui ont des responsabilités maintenant au sein du club et qui vont devoir les assumer. Et à eux de prendre le taureau par les cornes, comme on dit, même si c'est pas vraiment l'idéal pour recomposer une équipe et faire la transition jusqu'à au moins la fin de la saison et puis repartir avec un nouveau projet peut-être pour la saison suivante. Mais ben voilà, c'est à eux de faire le lien et d'être proche du sportif pour sentir qu'on est soutenu et que tout le monde est derrière les joueurs, le staff et les éducateurs en général.
Et justement, pour être proche du sportif avec un projet à l'avenir à moyen ou long terme, est-ce que cela pourrait influer éventuellement sur votre avenir à Bayonne, Alain, vous qui tenez évidemment ce club ?
Non, mais disons que, bon, ça c'est chaque chose en son temps. Disons que, bon, on sait très bien qu'à Bayonne, le foot, c'est toujours compliqué parce qu'on est dans une terre de rugby. Et qu'en termes de moyens, notamment les moyens financiers, ben voilà, c'est pas toujours évident, qu'on a le plus petit budget national, que chaque année il faut bagarrer, il faut essayer de créer à chaque fois une équipe compétitive avec des joueurs, soit du cru, soit, comme je l'ai dit avant, qui arrivent du niveau inférieur, parce qu'on n'a pas les moyens de se payer des joueurs confirmés de national. On n'a que deux contrats fédéraux, on n'a que des joueurs amateurs. Bon voilà, c'est sûr que sur le long terme ça use et que bon, on se demande si au final ça peut être pérenne. Alors bon, maintenant si les nouvelles personnes qui sont à la tête du club ont un projet peut-être avec des possibilités financières autres, ça peut être intéressant de pouvoir au moins travailler pour au moins ne pas tout le temps jouer le maintien jusqu'à la dernière journée.
Bon, c'est ce qu'on verra en tout cas si par la suite il y a un peu plus de sérénité quand même dans le club, notamment en cette fin de saison. On le rappelle, hein, l'objectif évidemment de l'Aviron Bayonnais, c'est de se maintenir. Pour l'instant, l'objectif est atteint. L'Aviron Bayonnais qui est 15e au classement de National. Alain Pochat, l'entraîneur de l'Aviron Bayonnais, qui était avec nous ce soir dans lundi soir de foot pour évoquer son club donc de Bayonne. Merci beaucoup Alain d'avoir été avec nous.
Merci à vous.
Un grand merci à vous et un grand merci également à Erwan Penland de foot-national.com qui laissera tout à l'heure sa place à Alexandre Chocho avec qui on évoquera le CFA. À très vite Erwan.
À très vite.
RTL L'Équipe, lundi soir de foot, les clubs amateurs.
À 20h et 21 minutes effectivement le CFA, et on va évoquer à moins de 10 minutes du coup d'envoi de la rencontre du 30e journée de Ligue 2 entre Tours et Ajaccio. On va évoquer le CFA avec Régis Brouard, l'entraîneur de Quevilly, qui également nous a accordé un entretien juste avant cette émission pour revenir notamment sur la suite et la fin de la saison assez compliquée de Quevilly. Entretien avec Régis Brouard. Tout d'abord, le retour sur la dernière rencontre, et en l'occurrence la défaite de votre équipe à Villemomble, le 2-0, un peu à froid. Quelle est votre réaction, votre analyse?
Une défaite en plus méritée, confirmation des derniers matchs qu'on a pu faire, à part le match contre Bastia la semaine dernière, où on a réellement fait un match intéressant, on aura dû le remporter, et malheureusement on est retombé dans nos travers ce week-end contre Villemomble, donc une défaite normale, malheureusement pour nous.
Une défaite, vous l'avez dit, qui suit d'autres contre-performances, puisque Quevilly reste sur une victoire lors des 9 derniers matchs. Comment vous l'expliquez, Régis?
Si j'avais une réponse à cela, je vous la dirais. Je n'arrive pas à expliquer. Ça fait pratiquement plus de 2 mois que l'équipe s'est perdue dans des choses qui ne sont inexplicables. Est-ce qu'il y a un problème mental qui est évident? Est-ce que l'équipe s'est vue trop belle à un moment ou à un autre, avec des points d'avance, des matchs en retard aussi, qui ça leur semble leur permettre de se détacher de ce classement et du championnat? Et puis malheureusement aujourd'hui on se retrouve en difficulté, et comme on sait que dans le football, à partir du moment où on commence à prendre des mauvaises habitudes, et ces choses qui nous arrivent aujourd'hui, de retrouver des bonnes habitudes va être compliqué.
L'équipe s'est vue trop belle, vous l'avez dit aux joueurs ça?
Ah, ils le savent. Vous savez, moi j'ai un mode de fonctionnement où je ne cache pas grand-chose et je leur dis les choses telles qu'elles sont. Aujourd'hui, je pense que les joueurs individuellement se sont perdus dans des choses que je n'arrive pas à comprendre. J'étais loin d'imaginer que ça pouvait nous arriver. On avait tellement de choses en place que voilà, un accident est vite arrivé. Et puis malheureusement, on n'arrive plus à se redresser de tout cela, et j'ai bien peur que la fin de saison soit compliquée pour nous, qu'on n'arrive pas à réaliser les objectifs qui étaient les nôtres en début de saison, et surtout sur la très 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 bonne première partie qu'on avait pu faire.
Même si Alexandre Chauchois de footiernational.com, rien n'est perdu encore pour Quevilly.
Non, rien n'est perdu. Alors il y a une petite différence entre la réalité comptable et la réalité mentale. Comme le disait Régis, aujourd'hui le mental de Quevilly semble un peu grippé. Pourtant, tout avait bien commencé, puisque Quevilly avait réalisé une première partie de saison très très convaincante, un début d'année également avec 5 victoires consécutives. Et depuis, il y a cette série d'une victoire en 9 matchs, mais avec 3 points de retard seulement et un match de plus à disputer. Bien entendu, rien n'est perdu pour Quevilly d'ici la fin de saison.
C'est ça, hein, sur ce point précis, le point mathématique, Régis, on est d'accord. Rien n'est perdu quand même pour votre club.
Non, mais je vous rejoins totalement sur l'aspect comptable. Rien n'est perdu parce qu'on a toujours un jeu en retard par rapport à nos deux autres concurrents. Mais après, nous, les entraîneurs, on s'attache pas spécialement à ça, parce que quand vous commencez à prendre de mauvaises habitudes et à perdre les matchs, et surtout que dans le contenu des matchs, il ne passe plus grand-chose. Je prends un exemple, on marquait beaucoup de buts, on se créait beaucoup de situations et d'occasions de buts, et aujourd'hui c'est pratiquement le néant à toutes les prestations. Donc c'est pas en se disant tous les jours, ou en faisant des réunions, ou en ayant des explications avec les joueurs, qu'en allant mettre un pied sur le terrain, que ça va revenir. Et aujourd'hui, tout ce qu'on savait faire et tout ce qu'on avait mis en place, c'est en train de disparaître, et s'évaporer dans des trucs qui sont incompréhensibles. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans la tête des joueurs? Ou pourquoi ils se sont perdus dans des choses? Je ne sais pas. On essaie de trouver des raisons à tout ça. On a changé nos habitudes, les horaires d'entraînement. On a changé énormément de choses pour essayer de les faire bouger. Et puis malheureusement, ça ne marche pas.
Régis, est-ce que votre club et vos joueurs seraient, entre guillemets, orphelins de la Coupe de France? On le sait, en début de saison, il y a eu un beau parcours, encore une fois, la saison dernière, évidemment. Est-ce que c'est peut-être ça, le manque de motivation Coupe de France, qui fait qu'en championnat, vos joueurs ne se donnent plus autant qu'avant?
Ben voilà, le retour du... ce fameux parcours de Coupe de la France de la saison dernière et même de cette année. On a été jusqu'en 6e de finale à nouveau. Est-ce qu'on paye tout ça? Moi, personnellement, j'ai du mal à le penser et à le croire. Maintenant, si dans la tête des gens où pratiquement toujours le public ou le grand public nous parle toujours de ces moments-là, il ne faut pas oublier que le championnat reste notre priorité, leur pain quotidien à eux. Il faut savoir que la saison prochaine, tous ces joueurs-là, ça fait pratiquement 3 ans qu'on travaille ensemble, bah, s'il n'y a pas réalisation de l'objectif, bah, je ne sais pas ce qu'ils vont devenir. Ils sont plus à la recherche d'un club et d'un emploi. Et la vérité aujourd'hui, c'est que si on montait en national, bah, tous ces joueurs-là seraient reconduits. Donc aujourd'hui, j'ai la sensation, moi, qu'on a l'impression qu'ils ont gagné les matchs avant de les avoir joués. Et c'est la pire des choses dans le sport de bon niveau, bah, s'il n'y a pas une remise en question tous les week-ends. Ils ont été capables de se mobiliser ou de se remobiliser la semaine dernière contre Bastia parce que on était les deux équipes de tête et puis contre des équipes qui sont classées dans le milieu du classement. Et là, on a du mal à se mobiliser et à faire les efforts nécessaires. Et on voit bien que dans ce championnat de CFA, si vous n'êtes pas prêt à affronter tout ça, bah, voilà, ce qui nous arrive aujourd'hui, malgré le talent, malgré l'équipe, malgré le collectif, voilà, on n'y est plus, malheureusement.
Mais quelle est l'ambiance au club, Régis ?
Bah, bizarrement, l'ambiance au sein de l'équipe est bonne parce que ça travaille toujours très très bien. Il n'y a rien à dire aussi à ce niveau-là. Après, au niveau du club, je pense qu'il y a une déception qui est vraiment présente parce qu'on avait tous les atouts pour nous pour réussir. Ça commence à être lourd parce que, alors encore une fois, c'est pas terminé, mais on sent au sein du club, des dirigeants, de la direction, bah, une forme d'inquiétude parce que les matchs, ils les voient comme moi et on ne reconnaît pas cette équipe. On ne reconnaît plus cette équipe et on ne reconnaît plus l'équipe, surtout sur la qualité de ce qu'on pouvait produire. Et c'était notre marque de fabrique. Là, on a l'impression de subir toujours les événements, de subir les actions, de subir les matchs, de subir l'environnement, le contexte. On subit pratiquement tout et notre marque de fabrique, c'était de faire les choses et d'avancer. Et malheureusement, on n'y arrive plus, on n'y arrive pas.
Encore deux choses, Régis. Tout d'abord, vous, en cas de possible, hein, malheureusement, on est obligé de l'évoquer, de non-montée de Quevilly en national, vous, Régis, est-ce que vous resteriez au club de Quevilly ?
Je ne me suis pas posé la question. Maintenant, il faut être réaliste. Dans ma troisième année de contrat, avec des objectifs qui avaient été donnés, j'étais resté ici malgré malheureusement pour moi, des choses qui ne sont pas pu se réaliser plus tard, mais je voulais finir un travail qui avait été commencé ici, et surtout avec le parcours de la Coupe de France l'année dernière. Et si on n'y arrive pas, il va falloir se poser des vraies questions, et puis il faut être honnête vis-à-vis de soi-même. Si on n'y arrive pas, j'y suis pas arrivé. Comment repartir, avec quel joueur, une autre motivation, un autre projet, voilà, les vraies questions, il va falloir se les poser. Avec qui, comment, quel moyen, parce que ça sera réellement un échec total, une frustration énorme, parce qu'il y en avait les moyens. Donc, je ne sais pas. Et puis après, mes ambitions personnelles, c'est que moi, j'ai envie de retrouver le niveau au-dessus, donc je ne sais pas ce qui va se passer dans les semaines à venir. Donc, il va falloir se poser des vraies questions, voilà. Et surtout être honnête vis-à-vis du club et vis-à-vis de soi-même. Voilà. Est-ce qu'on a la force de repartir à nouveau? Parce que l'investissement humain dans des aventures comme ça est tellement énorme et la déception est tellement énorme aussi que malheureusement vous en prenez un bon coup quand même derrière la tête.
Et un tout dernier sourire, si vous me permettez, Régis Brouard, vous qui êtes avec nous donc ce soir dans lundi soir de foot, au cas où Quevilly venait à monter en national, un Quevilly Rouen, pourquoi pas en national, ça ce serait quelque chose de particulier?
Oui, ce serait un bon petit derby, ce serait amusant à jouer et à vivre. Mais la bonne raison de ça, ça veut dire qu'on serait monté, si ça pouvait se procurer. Maintenant, j'espère que Rouen aussi va monter en Ligue 2, parce qu'ils sont toujours un peu dans le coup, malgré que ça va être difficile. Mais la plus grosse des satisfactions, c'est sûr que si on pouvait jouer ces matchs contre Rouen, ça veut dire que Quevilly serait en national. Donc, ce serait la bonne nouvelle.
Bon, voilà, c'est ce qu'on verra en tout cas avec votre club de Quevilly, Régis Brouard, l'entraîneur du club de Quevilly, qui était avec nous ce soir dans lundi soir de foot pour évoquer l'actualité de son club. Merci beaucoup Régis d'avoir été avec nous.
C'est très gentil à vous, merci beaucoup.
Et à très bientôt sur RTL Équipe. Également un grand merci à Alexandre Chauchois de foot-national.com d'avoir été avec nous ce soir. Merci beaucoup Alexandre.
Merci, salut.
Et à très vite sur RTL Équipe.
RTL Équipe, lundi soir de foot, le foot féminin.
effectivement, vous en avez l'habitude dans lundi soir de foot. On évoque le foot au féminin et notamment l'Olympique Lyonnais Lyon, demi-finaliste de la Ligue des Champions, qui a gagné son match aller 2-0 face à Arsenal. C'était samedi dernier à Gerland. Et Patrice Lerre, l'entraîneur de Lyon, nous a accordé un entretien juste avant cette émission. Entretien donc avec un entraîneur forcément heureux. Et donc retour sur cette demi-finale qui a eu lieu ce samedi, déjà un peu à froid Patrice, une victoire ainsi 2-0 à domicile dans une demi-finale de Ligue des Champions, c'est plus qu'un bon résultat.
Oui, c'est un bon résultat. Le matin, c'est vrai que j'aurais signé de suite pour un tel résultat, on n'a pas pris de but, on a marqué deux, mais bon, sur l'ensemble de la partie, surtout sur la première mi-temps, je pense qu'on avait moyen d'en marquer au moins un de plus et... J'ai un petit regret de ce côté-là. Bon, maintenant, il va falloir être costaud quand on va aller là-bas et pas prendre de but, si possible, en marquer un, parce que bon, si on marque, ils seront obligés d'en mettre quatre. Et là, je pense que ça sera compliqué pour eux.
Oui, au final, donc, cette victoire 2-0 face à ces joueuses d'Arsenal. Vous évoquiez la préparation, donc, avec une équipe qui a joué très haut, etc. Est-ce que vous avez justement préparé vos joueuses différemment par rapport à cette rencontre?
Non. Bon, vous savez, bon, déjà que c'est une équipe qui essayait de jouer. Bon, ils sont venus avec une certaine ambition de jeu ici à Gerland. Ça nous a permis d'avoir des espaces dans leur dos. On en a profité dès le début de match avec la qualité des courses de Lota. En plus, bon, elle a mis sa finition sur ses deux actions, elle marque de beaux buts. Bon, c'est dommage que je vous dise qu'on n'ait pas réussi à marquer ce troisième.
Sébastien, cette équipe lyonnaise, en tout cas, a réalisé un bon spectacle en plus devant 20 000 spectateurs.
Oui, ça c'est une autre satisfaction du côté lyonnais, c'est que le public a répondu présent pour ce match. Il est vrai que l'affiche face à Arsenal, c'est un nom qui parle pour tout le monde, que ce soit en dehors du football féminin que dans le football féminin. Et puis ben, sur le terrain, les Lyonnaises ont entamé la meilleure des manières la rencontre, ce qui a permis d'avoir même une hold-là en deuxième période à Gerland. Et ça, je pense que c'est aussi un point positif pour l'Olympique Lyonnais, c'est que le public répond présent à ce projet de club. Et maintenant, ben, on peut souhaiter que Lyon satisfasse le public jusqu'au bout de cette compétition.
20 123 spectateurs, pour être tout à fait précis, Patrice. Ça aussi, ça doit être une vraie satisfaction.
Bah oui, c'est vraiment une satisfaction. Bon, là, c'est le record. Mais bon, bah, c'est une politique aussi au niveau du club. On est le seul club qui se donne les moyens d'avoir cette ambition de devenir l'un des meilleurs clubs européens. On a un président qui met des moyens. On a un grand stade. On joue nos matchs dans ce stade. Et bon, et puis en plus, les spectateurs prennent plaisir à nous voir jouer. Bon, je pense que c'est une belle réussite de l'Olympique Lyonnais.
Vous avez évoqué la politique du club. Jean-Michel Aulas, notre confrère Willy Maisonnas, notre correspondant sur place, l'avait vu après la rencontre et Jean-Michel Aulas paraissait vraiment tout heureux, tout joyeux. Vous le sentez vraiment présent quasiment au quotidien auprès de votre club?
Bah oui, parce qu'il est tout le temps là. On discute souvent. Hier, on a passé une bonne demi-heure encore à discuter. On prépare le déplacement d'Arsenal. Il est vraiment impliqué à 100% dans cette ambition de faire développer le foot féminin à l'Olympique Lyonnais. Bon, la satisfaction, bah, c'est ce spectacle qu'il y a eu samedi devant du public. Et je pense que c'est une juste récompense par rapport à son investissement dans ce football.
Et quelle peut être au final la progression, l'étape suivante pour l'Olympique Lyonnais, Patrice Lerre? Parce qu'on a l'impression aujourd'hui que cette équipe féminine est au top de sa forme, à l'apogée même de son développement. Quelle peut être l'étape suivante?
Bon, l'étape suivante, c'est vraiment d'avoir une grande structure, c'est-à-dire d'améliorer la formation au sein du club. On peut avoir un lieu de vie. Bon, le président a un projet, bon, naturellement, d'avoir le stade de Tessine pour l'équipe pro et déménager le centre de formation garçons là-bas. Et nous, on récupérerait les installations de Tolavaloge pour vraiment faire un centre féminin. Et ce serait un truc assez extraordinaire parce qu'on serait sans doute l'un des seuls clubs en Europe à le faire, vraiment avoir une politique comme chez les garçons, préformation, formation, et puis équipe élite pour pouvoir vraiment avoir, je dirais pas le monopole, mais vraiment une très grosse équipe sur le plan européen.
Mais avant de penser à l'étape suivante, il faut d'abord penser évidemment à la demi-finale. Retour de Ligue des Champions, ce sera face à Arsenal ce week-end. Là aussi, comment est-ce que vous allez préparer vos joueuses de manière différente ou au contraire, non, c'est comme si c'était un match de championnat, je dirais presque, Patrice?
Non, la Coupe d'Europe, c'est complètement différent. Je veux pas faire offense au championnat de France, mais bon, c'est vrai que c'est pour nous, c'est long, c'est très très long. C'est très très long le championnat, il y a des matchs intéressants, il y en a d'autres, c'est plus difficile. Et c'est vrai qu'on a manqué un petit peu de motivation. Je prends le challenge de France, bon, malheureusement, un manque de motivation, peut-être de fatigue, une certaine lassitude. Bon, on a perdu au pénalty sans perdre au niveau du score sur le terrain. Bon, parce que bon, peut-être on pensait plus à Arsenal, parce que là des matchs, jouer devant 20 000 spectateurs ou jouer devant 300 personnes à Juvisy, c'est pas la même chose, c'est complètement différent, c'est un autre monde. Et on veut vraiment aller au bout, bien négocier ce deuxième match, pouvoir se qualifier, parce que pour moi, ça va être 50-50, parce que Arsenal a des arguments, ils ont un petit terrain, ils vont nous mettre un impact physique, ils ont des bonnes joueuses, et ça va pas être évident. Et après, bon, naturellement, si par bonheur on se qualifie, bon, il faudra être présent le 26 mai au stade de Fulham.
Ouais, à Craven Cottage, effectivement. L'autre demi-finale, Sébastien, a eu lieu également donc ce week-end avec le match nul entre Duisbourg et Potsdam de but partout.
Ouais, c'était une demi-finale 100% allemande, donc entre le tenant du titre, Potsdam, qui sort sur le terrain de Duisbourg. Les Allemands de Potsdam ont mené par deux fois au score, mais se sont fait à chaque fois rejoindre par Duisbourg, et le score était acquis à la mi-temps. Ça laisse entrevoir une demi-finale retour très très intéressante, parce que je pense que si Potsdam part favori avec les deux buts à l'extérieur, Duisbourg aura de sérieux arguments, notamment avec des joueuses comme Imka Grix et Alexandra Popp en attaque, qui sont de redoutables attaquantes.
Patrice, votre préférence ?
Non, j'ai pas de préférence, franchement. C'est deux très bonnes équipes, et je pense que même Sébastien a raison, une équipe comme Duisbourg peut se créer la surprise, j'en suis persuadé, parce qu'ils ont des arguments offensifs, et j'ai pas senti Potsdam vraiment à l'aise. J'ai vu la finale de la Coupe d'Allemagne, ils ont été battus par Francfort, et Francfort a gagné très logiquement. Non, je pense que cette équipe de Duisbourg a toutes ses chances, encore malgré ce match nul à domicile de but partout. Et ces deux équipes qui ont beaucoup de qualités, bon, vraiment dans le style allemand, avec certaines individualités qui peuvent marquer à tout moment.
Mais est-ce que vous avez entendu autour de vous peut-être certains dire « Ah, on voudrait que ce soit Potsdam quand même par rapport à l'année dernière ?»
Bon, non, pas forcément. Peut-être au niveau des joueurs, je sais pas. Mais moi, non, je me pose pas la question. Ça sera une équipe allemande qu'il faudra battre, si. Par bonheur, on va en finale, et là on est qu'à la mi-temps de cette demi-finale.
Ouais, on rappelle, hein, demi-finale retour donc, qui aura lieu ce week-end. Il y avait un autre objectif, Patrice, et vous l'avez déjà un petit peu évoqué, et je me permets d'y revenir à l'instant, c'était le rêve, pourquoi pas, d'un triplé, même si évidemment on en est encore loin avec la Ligue des Champions, mais il y avait la possibilité avec le Challenge de France de réaliser quelque chose de très grand. Malheureusement, il y a eu cette élimination donc, face à Juvisy, vous en avez parlé, un petit peu de lassitude. Est-ce que vous-même, vous avez peut-être été un petit peu déçu par vos joueuses, de manque d'implication de vos joueuses ou pas du tout ?
Non, c'est pas un manque d'implication. Les joueuses, bon, étaient fatiguées. On a manqué de lucidité parce que c'est un match que, même sans être très très brillant, on aurait dû gagner. Non, vous savez, quand vous voyez des joueuses qui sont déçues, même qui pleurent dans le bus parce qu'elles ont loupé des occasions, bon, c'est difficile. C'est quelqu'un qui a été concerné. Non. Bon, moi, si on a loupé, bon, c'est dommage. Moi, je voulais, c'est vrai que mon ambition était, mon rêve était de faire un triplé. Bon, on verra peut-être un peu plus tard. Bon, maintenant, on se reconcentre sur la Ligue des Champions, en espérant aller en finale. Et le triplé, ben, comme me dit M. Ola, si tu gagnes tout la première année, après que tu, je te demande la seconde année. Bon, ben, vous savez, là, on va continuer à travailler. Il y a un objectif précis, cette Coupe d'Europe qui nous fait rêver depuis le début de la saison. On va essayer d'aller au bout, ça va être difficile. Mais bon, pour l'instant, on a fait le nécessaire. On va essayer de trouver l'énergie, l'intelligence tactique et l'efficacité pour pouvoir se qualifier cette semaine, en fin de semaine, à Arsenal.
En tout cas, on le constate, le fait d'avoir gagné déjà le championnat de France et donc d'être déchargé, on va dire, de ce poids, c'est vraiment une bonne chose pour vos joueuses et pour vous-même pour pouvoir se focaliser à 100%
sur
cette saison.
Oui, c'est très 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 bien, mais on s'est donné le challenge de ne pas fausser le championnat, c'est-à-dire que les quatre derniers matchs et deux confrontations contre Saint-Etienne, Rodez et Toulouse, on va jouer à fond parce que, faut être respectueux des autres équipes et... Puis bon, c'est vrai qu'on voudrait rester invaincu jusqu'à la fin de la saison.
En évoquant le championnat, Sébastien Durand de footofeignant.fr, il y a eu évidemment quelques rencontres ce week-end, avec notamment une information principale, le PSG qui revient à hauteur de Montpellier, puisque Montpellier a fait match nul à Yzeure 2-2, et le PSG s'est imposé face à La Roche-sur-Yon 2-0.
Oui, le PSG qui a bien maîtrisé sa rencontre face à la Lanterne Rouge, La Roche-sur-Yon, un score qui était acquis dès la mi-temps. Par contre, du côté de Montpellier, ce fut beaucoup plus difficile face à une équipe Yzeure qui ne cesse de relever la tête depuis déjà plusieurs journées. Et les Yzeuriennes ont ouvert le score, ont été menées, sont revenues à 20 minutes de la fin et ont même manqué un pénalty dans les arrêts de jeu qui leur aurait permis de décrocher une victoire. Céline Deville ayant détourné le tir de Mélanie Bouche. Et c'est vrai qu'on voit que y a aucun match facile, et même si Montpellier joue l'Europe, Yzeure qui joue le maintien a réussi une belle performance.
62 points donc aujourd'hui pour Montpellier et le Paris Saint-Germain au classement. À votre avis, avec votre regard, Patrice Lair, qui peut être deuxième ?
Bon, moi je viserai sur le Paris Saint-Germain sans hésitation, parce que bon, Montpellier a une très mauvaise passe. Ils ont sur deux défaites, un match nul. Je pense qu'il y a un gros manque de maîtrise. Ils sont en train de, pour moi, de perdre une place européenne, surtout qu'ils vont à Paris le dernier match et ça sera très 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 compliqué. Et Paris est en train de reprendre le dessus et a un gros potentiel. Et je pense que sur les confrontations que j'ai pu voir, bon. Une place de Montpellier deuxième sera méritée.
Paris Saint-Germain-Montpellier, effectivement, la dernière journée de championnat, ce sera le 29 mai prochain au Camp des Loges. Mais d'ici là, il y aura notamment une demi-finale et on l'espère une finale de Ligue des Champions le jeudi 26 mai prochain. Vous avez déjà acheté vos places, peut-être, Patrice, ou pas du tout? Quoi qu'il arrive, ou pas?
Non, pas du tout.
Très bien, en tout cas on l'espère que vous n'aurez pas besoin effectivement d'acheter vos places, que vous y serez dans ce stade de Fulham à Craven Cottage pour la finale de la Ligue des Champions. Mais auparavant
j'espère beaucoup.
La demi-finale face à Arsenal. Patrice Terre, l'entraîneur de Lyon, qui était avec nous ce soir dans Lundi Soir de Foot. Merci beaucoup Patrice d'avoir été avec nous.
Merci.
Et à très bientôt sur RTL Équipe. Un grand merci également à Sébastien Duret de footféminin.fr d'avoir été avec nous. Merci beaucoup Sébastien.
Merci.
Et à très vite sur RTL Équipe.
RTL Équipe, la radio sport et info.